Bien. Je vous propose de vous installer tranquillement, confortablement.
Oui, c'est ça, ça va aller de la journée.
Et on va démarrer tout doucement. Alors, je salue ceux qui viennent d'arriver au Hilton. Je salue ceux qui nous écoutent à distance en direct sur l'appli ou le site Radio Girafe Normandie. Et je vous propose que l'on démarre tout d'abord par des remerciements. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Merci au Hilton de nous recevoir pour le troisième épisode de ce partenariat qui nous unit, qui s'appelle le Hilton le Live, comme vous le savez. Et ce troisième thème que j'ai le plaisir d'animer a pour objectif de mettre en perspective le sujet de l'apprentissage, du savoir et de la transmission. Avant, donc, simplement vous rappeler Radio Girafe Normandie, qu'est-ce que c'est? Bah, tout le monde, j'allais dire tout le monde le sait, c'est un peu présomptueux quand même. Bon, mais en tout cas, un peu de monde le sait. C'est une web radio qui a été créée il y a bientôt 3 ans par trois amis. Guillaume, Raphaël et Frédéric, d'où le GRF. On a mis les voyelles entre les consonnes et ça a donné Girafe, un animal bien sympathique qui permet de prendre de la hauteur sur un certain nombre de sujets. Donc parmi les activités de Radio Girafe Normandie, la ligne éditoriale, c'est de mettre en valeur les activités, les projets, les femmes, les hommes du Havre, de la Normandie et parfois d'ailleurs. Et c'est là-dessus que nous fonctionnons. Et donc nous avons des rubriques, des podcasts, des émissions récurrentes et puis ces partenariats, dont celui du Hilton que je viens d'évoquer. Donc si on parle du sujet qui nous intéresse ce soir, c'est, comme vous l'avez vu sur les réseaux, notamment apprendre, savoir et transmettre. Trois verbes qui dessinent le fil invisible de toute une vie. Dès la petite enfance, nous apprenons, sans même en avoir conscience, en observant, en imitant, en expérimentant. L'école vient ensuite structurer ses apprentissages, transformer la curiosité en savoir et poser les bases. Puis au fil des années, ce savoir devient compétence, expérience, regard critique sur le monde. Mais apprendre ne s'arrête jamais. À chaque étape, élèves, étudiants, professionnels, nous continuons à évoluer. Et presque naturellement vient le moment de transmettre à ses pairs, à ses équipes, à ses enfants, à la société en général. Transmettre, ce n'est pas seulement partager ce que l'on sait, c'est aussi partager une manière de penser, des valeurs, une posture face au monde. Alors apprendre, savoir transmettre, ce ne sont pas trois temps distincts, mais un mouvement continu, une boucle vivante qui nous accompagne de la maternelle jusqu'à la fin de notre carrière et parfois au-delà. Et pour incarner ce processus et éclairer de leur expérience et leur expertise ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur ce plateau 4 invitées prestigieuses au parcours riche et complémentaire. Dans la chronologie du fil conducteur invisible de l'apprentissage que j'évoquais, je reçois Hélène Bizet. Bonsoir Hélène, professeure des écoles, directrice d'école maternelle, l'école Stendhal au Havre. Anne Broudic, bonsoir Anne. Bonsoir. Professeure d'art plastique au collège lycée Saint-Jean, toujours au Havre. Christelle Bougan, bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Directrice générale de l'école de management Kelia Human School, également située au Havre. Et enfin, Angélique Voisard, ancienne dirigeante du centre de formation Force 7, aujourd'hui coach et formatrice en entreprise. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à vous, bonsoir, et merci d'avoir accepté cet échange au micro de Radio Girafe. Et sans perdre plus de temps en introduction, je souhaite qu'on aborde le sujet qui nous intéresse par une première question transverse qui s'adresse à vous toutes, mesdames, sur ce rapport à l'apprentissage. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous engager dans ce métier? Est-ce une vocation, le hasard, une idée un matin en vous levant? Et puis, est-ce que vous pourriez nous confier un souvenir marquant dans votre métier lié à l'apprentissage? Qui veut commencer? Allez, Angélique.
Donc moi, je suis tombée depuis toute petite dans l'envie d'enseigner. Et ça a commencé par un déclic avec l'apprentissage de la lecture, qui a été pour moi vraiment le phénomène le plus important. À partir du moment où j'étais capable de lire toute seule, c'est vraiment un très très grand souvenir. Ça vous fait rire, j'habitais un immeuble et la première chose que j'ai fait en rentrant de l'école, j'ai lu tout ce qui était écrit sur les boîtes aux lettres pour avoir les noms des gens qui étaient dans mon immeuble. Et de là, j'ai lu mon premier livre, Les Malheurs de Sophie. Et oui. Ce qui a déclenché en moi, en fait, quelque chose de très important aussi dans l'apprentissage, qui sont les émotions et puis tout l'imaginaire qu'on peut se créer autour de ça. Et de là, toute petite, ma maman me disait toujours que je construisais une école dans ma chambre et je lui disais dès l'âge de 6 ans, « Maman, je ne sais pas comment sera mon école plus tard, mais en tout cas, j'en aurai une, mais elle ne sera pas comme l'école dans laquelle je vais. » Et elle est devenue, comme tu sais, Force 7.
Un joli projet, magnifique. Qui veut prendre la parole sur cet engagement dans l'apprentissage et peut-être un fait marquant, Hélène?
Alors un fait marquant dans mon métier, j'en ai plein, mais mon premier souvenir vraiment marquant d'apprentissage en tant que tel, pour moi en tout cas, c'était ma prof d'anglais de 6e qui nous a fait le premier cours d'anglais avec des marionnettes. Et j'avais trouvé ça à l'époque dingue, super. Enfin, ça changeait vraiment de ce que j'avais vu jusqu'alors. Et je pense qu'elle a contribué grandement à me faire aimer les langues, à me faire... à faire en sorte que ça devienne que l'enseignement en général devienne quelque chose d'important.
Et en utilisant un outil un peu différent
à l'époque, en tout cas.
Ce sera un sujet qu'on abordera un petit
voilà.
peu plus tard.
Voilà. Et fait. Je pense qu'elle était dans les prémices de ces nouvelles
façons d'apprendre.
Ouais.
Anne.
Alors moi aussi, c'est pareil, dans l'enseignement, j'ai la chance d'avoir eu beaucoup d'expérience de transmission, donc ça va être difficile de choisir, mais par rapport à moi, mon parcours, ça va être plutôt au lycée, où parce que j'étais pas spécialement quelqu'un qui aimait l'école. Il a fallu attendre le lycée, voilà, pour avoir cette révélation et tomber sur un prof de français qui avait une façon d'enseigner avec la transdisciplinarité, la transversalité, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, et qui m'a ouvert en fait l'esprit sur à la fois la littérature, la philosophie et l'art. C'est comme ça qu'après j'ai commencé à aller faire des options art et envisager des études d'art. Donc ça c'est la première chose. Et puis après dans notre transmission par contre d'expérience, moi ce que je trouve super, parce que j'ai commencé à transmettre avant même d'être enseignante, mais en étant dans des activités ludiques, dans des centres aérés, et c'est de voir que quelqu'un qui n'y arrive pas au départ aboutit à quelque chose et voir le plaisir que ça lui donne. Et ça, je trouve ça toujours, encore maintenant, j'adore.
Il n'y a pas de fatalité.
Non, voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas, il n'y a jamais de nul en art, en plus. C'est ça qui est bien.
Oui, et même dans d'autres disciplines,
pour peu qu'on
l'aborde
exactement.
Différemment.
Exactement.
Christelle ?
Oui. Alors, je vais être un petit peu différente. Moi, c'est plutôt un... Alors, comme vous, il y a plein de choses positives, surtout dans l'école supérieure. Il y a plein de choses qui se passent et c'est infini en termes d'expérimentation. Moi, c'est plutôt ce que j'ai vécu plus jeune, au lycée, à la sortie du lycée, où j'étais pas forcément dans la bonne filière. Et c'est les remarques qu'on m'a faites, le cadre dans lequel on m'a mis, les clichés dans lesquels on m'a posé, ouais. qui m'ont fait choisir une autre voie, alors la voie de l'apprentissage, on en parlera tout à l'heure, notamment, et ce besoin d'accompagner aussi des étudiants qui sont peut-être pas dans les mêmes cases que les autres, mais qui pour autant peuvent avoir un beau parcours.
Bien sûr.
Je pense que mon parcours est pas mal. Enfin, en tout cas, j'en suis contente. Donc, voilà, c'est de se dire, si je reprenais les phrase qu'avait dit ce professeur, c'était quand même très très négatif et très clivant. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, y a d'autres possibilités et c'est ça qui est plutôt chouette.
Justement, avec ce regard qu'on a sur le passé et jusqu'à aujourd'hui, alors sans vous faire offense, hein, mais on peut peut-être parler de votre expérience sur les 20 dernières années, mais vous restez très jeune de toute façon. La question suivante, c'est de savoir, évidemment, mais on a déjà un élément de réponse par rapport à ce que vous venez de dire, on apprend aujourd'hui différemment qu'il y a 20 ans, et quels sont les éléments à retenir justement sur ces différences aujourd'hui, selon vous ?
Sur l'apprentissage aujourd'hui, alors ça dépend un petit peu de... ça dépend de l'âge, ça dépend de l'envie et du besoin du jeune. Moi, je sais que dans une école supérieure, donc post-bac, ça devient... Enfin, il se passe plein de choses aujourd'hui. Hein, donc, parler... j'aurais fait cette interview il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas eu la même réaction que j'ai exactement. Aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est extrêmement mouvant. Et je dirais que, comme le disait tout à l'heure ma collègue, c'est très, très lié aux émotions, c'est très lié au sens qu'on va mettre, c'est très lié aux envies, aux besoins. Donc, j'ai envie de dire, comment on apprend aujourd'hui, c'est beaucoup de leviers qui vont nous permettre d'obtenir des résultats positifs.
Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on est effectivement sur le registre, naturellement, là, votre premier élément de réponse à toutes, c'est plus la dimension sensibilité, émotion, la dimension humaine, plus que des nouvelles méthodes, finalement, ou de nouvelles technologies qui viennent, évidemment, faire bouger les choses, mais qui sont, je dirais, sur un second plan, finalement. C'est d'abord la façon dont on reçoit l'apprentissage aujourd'hui qui est différente d'une génération d'il y a 20 ans.
Alors moi, je suis plus sur la partie salarié en entreprise, puisque ça a été quand même la plus grande partie de ma carrière. Et en tout cas, les salariés, eux, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est effectivement plus du tout de théorie sur, par exemple, ce qui était mon domaine, le management. Ils n'en ont un peu rien à faire de savoir d'où ça vient, cette théorie de management. Ce qu'ils veulent, c'est du concret, du court, du pratique. Et qui correspond à la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien, de l'interactif aussi, pour qu'ils puissent partager ensemble ce qu'ils vivent, parce que c'est très compliqué, comme l'a très bien dit Christelle aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'ils attendent, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de vivant, de court, de pratique, de réel, de concret, et de repartir avec des choses à tester, en fait. De réellement tester des choses et pas forcément la théorie qu'ils peuvent avoir en plus très facilement avec les outils qu'on a aujourd'hui.
Faut que ce soit fonctionnel, ça marche ou ça marche pas. Merci Angélique. Alors si on avance un petit peu dans notre parcours, ce chemin de vie qui est le phénomène d'apprentissage, je vais m'adresser un peu plus précisément à Hélène. Hélène qui est donc professeure des écoles, directrice d'une école maternelle comme je le disais tout à l'heure. Et ma première question qui s'adresse à toi, c'est qu'est-ce que ça signifie en fait apprendre quand on a 3, 4 ans, quand on est tout petit ?
Vaste sujet. Non, apprendre quand on est tout petit, c'est déjà c'est apprendre. Le premier apprentissage, c'est d'apprendre à vivre ensemble, apprendre les règles de vie en société, en collectivité, apprendre à respecter l'autre, à écouter l'autre, à aussi se faire entendre, parce qu'il y a à 3 ans, il y a des niveaux de langage.
Tu peux avoir aussi déjà des difficultés à 3-4 ans en termes de socialisation.
C'est une vraie micro-société, l'école maternelle. Donc on repère vraiment tout de suite les grands parleurs, les petits parleurs, ceux qui ont
les
envie
leaders,
qu'on les...
Voilà, les suiveurs.
Exactement, ceux qui ont juste envie qu'on les oublie et ceux qui ont envie qu'on les entende, au contraire. Ouais. Donc ça, c'est la première phase d'apprentissage, c'est ça déjà. Et puis après, c'est apprendre à, quand on a posé toutes ces bases-là, apprendre à apprendre, apprendre à se poser, apprendre à se concentrer suffisamment pour pouvoir se poser et écouter et pouvoir apprendre par la suite des choses un peu plus théoriques. On est beaucoup en maternelle, on est vraiment beaucoup dans le jeu, on apprend énormément par le jeu.
C'est ma question suivante, tu me devances. C'était la place. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il y ait cette relation avec l'anecdote, enfin, en tout cas le fait marquant que tu évoquais sur le fait que tu as appris l'anglais un peu par le jeu.
Oui,
et maintenant, ton regard en tant que professeur et directrice de maternelle, quelle est la dimension que tu donnes et que tes collègues donnent au jeu?
Elle a une place primordiale dans l'apprentissage en maternelle. D'ailleurs, les enfants souvent disent qu'ils n'ont rien fait. Enfin, les petits, quand ils rentrent à la maison, ils disent j'ai joué toute la journée, et tant mieux, parce qu'ils ont joué effectivement toute la journée, mais tout passe effectivement par le jeu, par les jeux de dés, et malheureusement, il y a moins de jeux de dés qu'il y a 20 ou 30 ans.
Oui.
Ça se perd un petit peu dans certains endroits. Après, c'est pour ça qu'à l'école, on essaye de le faire perdurer, parce que les jeux de dés tels que nous, on les connaissait ou qui se font encore dans certaines familles ou avec des grands-parents ou le jeu apprend beaucoup aux enfants et c'est comme ça qu'on essaie que
de les faire avancer. Et sur le sujet négatif, si je puis dire, ça vous permet aussi de détecter les difficultés d'apprentissage de certains. Puis il y a cette problématique, enfin en tout cas ce sujet de l'inné et de l'acquis. Il y a des enfants, comme tu le dis, qui ont cette capacité à être leader, à faire entendre leur point de vue, leur voix, même quand ils sont tout petits. Ceux qui n'ont pas ça, est-ce que dans le cadre de ces apprentissages, vous arrivez à développer ces qualités-là que n'ont pas d'autres enfants, mais qui leur seront peut-être nécessaires plus tard?
J'ai envie de dire qu'on est un peu là. Enfin, moi, je me sens davantage indispensable à des enfants qui sont en difficulté, effectivement. Un enfant qui n'est pas en difficulté, quelle que soit la méthode qu'on lui proposera, ça ira. Par contre, un enfant qui est en difficulté, il va avoir besoin de plus expérimenter. L'expérimentation, elle est aussi au centre des apprentissages dès la maternelle. Plus ils expérimentent, plus ils s'approprient les choses, plus les savoirs vont rester après. Je crois que c'est une question qui va arriver, mais ouais, c'est ça. On est vraiment sur l'expérimentation, le jeu, la répétition, mais pas la répétition telle que nous on l'a connue avec. On faisait des lignes et des lignes. Alors ça se fait encore en élémentaire et heureusement ça passe. L'apprentissage passe aussi par la répétition, mais on n'est pas évidemment dans la même répétition parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits en maternelle. On est plus sur.
C'est l'art de la pédagogie.
C'est plus de l'oral et de la transmission orale, mais.
Il y a un acteur dans ce dispositif de formation, enfin d'apprentissage pour les petits, c'est évidemment les parents. Quelle interaction, en tout cas quelle triangulation existe-t-il entre l'école maternelle, le petit et ses parents dans ce phénomène d'apprentissage?
Il est indispensable. Plus l'enfant sent qu'on est que les parents nous suivent ou qu'on suit. On travaille avec les parents. Plus les parents sont partie prenante, plus l'enfant avance. Mais je pense que ça, c'est de toute façon, c'est vrai de la maternelle au cours de la scolarité en général.
Au-delà du bac.
Et souvent, les parents me disent, qu'est-ce que je peux leur faire comme devoir quand ils rentrent à la maison. Surtout pas de devoir, mais par contre, jouer, lisez des histoires. On en a parlé tout à l'heure de la lecture, et je pense que on apprend le goût de la lecture dès qu'on est petit à la maternelle, en écoutant des histoires, et qu'on a envie après de lire soi-même. Les parents ont un rôle fondamental dans l'apprentissage dans l'apprentissage des enfants.
Merci Hélène. Si on élargit de nouveau le cadre et qu'on s'intéresse justement à ces mécanismes d'apprentissage, et là je vous pose la question à toutes mesdames, qu'est-ce qui fait qu'un, justement tu en as parlé juste à l'instant, qu'est-ce qui fait qu'un savoir reste? Est-ce que ce n'est pas oublié dès qu'on est sorti de la salle de cours? Qui veut répondre, Anne?
Oui, moi, je dirais qu'on a la chance en art plastique d'avoir un savoir théorique et un savoir pratique. Et le fait d'être dans le faire, F-A-I-R-E, et de la manipulation, moi, je trouve que c'est quelque chose qui apporte vraiment. Il y a une création qui aboutit ou n'aboutit pas, qui ramène à la réflexion, et en tout cas, c'est ça qui reste.
Il y a le processus de créer, de faire, d'expérimenter.
Et puis, il y a aussi la relation à l'image, à la rencontre. La rencontre, tout d'un coup, avec un film, avec une œuvre d'art, et ça marque. C'est-à-dire qu'ils l'ont. Moi, je vois parfois des élèves, je leur parle d'une œuvre, et on va la voir, et on la voit en vrai. Ouais. J'aime bien ce mot vrai. Et ça change tout, parce que faire un cours en vidéo projetant une image, c'est pas une œuvre d'art. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui revient souvent. Ils me disent madame, je l'ai vu en vrai, ou même parfois ils me renvoient la photo parce qu'ils l'ont vu en vrai.
C'est ça, du concret.
Voilà, du concret.
C'est la réalité, on en parle.
La réalisation et en même temps la rencontre.
Christelle.
Il y a un petit peu la notion de test and learn. Je pense que c'est
hyper important. Enfin, là, on a parlé de l'émotion tout à l'heure avec Angélique. Créer une émotion, alors c'est valable dans l'art, c'est valable aussi pour les tout-petits, parce que c'est peut-être ça aussi qui va faire qu'ils vont avoir un ressenti positif. Donc, ça va encore plus générer de l'envie de recommencer. Et tout l'enjeu, il est là. C'est comment avoir envie d'être challengé, comment avoir envie de se tromper. Et que cette erreur-là soit un vecteur de bien, enfin de bon.
Non, mais c'est ça, c'est exactement la question que j'allais vous poser juste après, c'est la notion d'erreur comme élément indispensable finalement de l'apprentissage.
Mais c'est là que tout se joue, en fait. C'est là que tout se joue et c'est là que nous, dans l'enseignement, on a intérêt à être, j'ai envie de dire, bon, parce que c'est. Et envie de te tromper. Parce que déjà, si tu t'es trompé, c'est que tu as fait. Ouais. Et que tu vas refaire et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas apprendre que bah, c'est de plus en plus plaisant parce que tu vas monter en compétence.
Apprendre de ses erreurs, ça n'est pas qu'une formule, quoi.
C'est fondamental.
C'est
parce qu'il y a un passage à l'action.
C'est pas grave.
C'est structurant et c'est pas grave. Exactement.
Dire aux enfants, c'est pas grave, on a le droit de se tromper.
Angélique, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, pour que ce soit et que ça reste, comme tu disais, dans l'apprentissage, c'est la notion d'expérimenter et de faire. Nous en formation pour les salariés, on dit souvent avec les formateurs et ceux qui par exemple font de la bureautique sur Excel le disent souvent, une formation Excel sur 2 jours, si les gens n'appliquent pas aussitôt et refont, en fait ils vont pas retenir du tout et au bout d'un mois ils n'auront appris rien du tout. Donc c'est vraiment le fait de refaire et de refaire et d'expérimenter et de se tromper, comme vous l'avez très justement dit. Et souvent, les formateurs en bureautique le disent. Alors, il y a beaucoup de peur derrière le fait de se tromper. Hein. Donc, surtout chez les adultes,
bien sûr,
il y a beaucoup de peur.
Il y a une petite question annexe, d'ailleurs. Vous avez sans doute, évidemment, testé d'autres types d'apprentissage dans d'autres cultures. Est-ce que ce n'est pas un peu typiquement français que de pointer ce qui ne va pas plus que ce qui va ?
Alors, oui. Alors, moi qui ai fait une partie de ma carrière dans un grand groupe américain, c'est vrai que c'est ce que j'ai retenu de ce passage chez les anglo-saxons, c'est qu'effectivement, on avait le droit à l'erreur, que ça ne posait pas de problème et que ce n'était pas du tout perçu comme quelque chose de négatif. Donc effectivement, nous, effectivement, on a un peu cette histoire-là sur le dos. Après, il y a effectivement y a beaucoup de ce qu'on appelle, nous, les croyances limitantes hein, sur cette peur de se tromper et puis... Et puis surtout, quand ils sont, qu'ils sont adultes, il y a quand même un sac à dos qui s'est mis en place et c'est pas toujours facile.
À traîner un peu longtemps
dans cette... Il y a avoir de la résistance et c'est là où est tout le talent des formateurs pour adultes d'arriver
à... De vider un peu le sac à dos, en tout cas de l'alléger.
À les faire dépasser ces soucis-là, mais après, ça se passe très bien. Hein,
c'est
pas pour ça qu'ils vont pas y aller.
Et si on pousse un peu le raisonnement un peu plus loin, est-ce que ça voudrait dire que l'expérience ou l'expérimentation vaut plus que la théorie ?
Alors, je dirais qu'aujourd'hui encore plus, parce que la théorie, tout le monde y a accès, et elle est très facile d'accès. Donc, je dirais que la base, elle est assez facile à avoir, en dehors, effectivement, des apprentissages de mes collègues qui, eux, sont vraiment sur le début de la scolarité. Mais en tout cas, pour un adulte, après, c'est plutôt expérimenter qui compte, et effectivement, la théorie est moins importante.
Christelle ?
Ouais, moi, je dirais, enfin, je ne sais pas si c'est moins important, je dirais que c'est. Faut pas les opposer. On a plus accès à la théorie aujourd'hui, mais est-ce qu'on l'utilise bien ? C'est-à-dire que la théorie, ça doit être le cadre dans lequel on doit être confortable. Et l'expérimentation va permettre d'oser passer le pas et de se tromper et de revenir. Mais la théorie, ça reste le cadre dans lequel il faut bien qu'on parte d'une feuille. Enfin, il faut bien qu'on commence à avoir
avoir des notions, des savoirs, bien sûr.
Donc ça s'oppose pas. Faut faire peut-être un petit peu attention à ça.
C'est une question de dosage peut-être ou d'équilibre entre les deux.
Ouais, c'est une question de. Il faut qu'il y ait un socle. Et c'est ce qu'on rencontre avec nos jeunes. Hein. Ils ont tendance à zapper la théorie, ils aiment bien, on le sent très très vite, hein, quand on passe des oraux, des examens et qu'on voit qu'il n'y a pas de travail, ça se sent en fait, on sent la superficialité, tout simplement.
Anne ?
Bah oui, moi, en art plastique, je le ressens alors, un peu moins au lycée, parce qu'ils mélangent théorie et pratique. Et ils comprennent bien que quand ça ne va pas en théorie, bah, ils peuvent aller vers la pratique en faisant des erreurs, et en ne faisant que ça, d'ailleurs. Et en laissant même parfois le hasard, mais il va falloir savoir le gérer et le théoriser. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, et ce qui va les renvoyer à aller vers un point culturel. Et c'est, par contre, la grosse difficulté au collège. Et au collège, cette heure d'art plastique, quand on l'appelle bien art plastique, parce que depuis 75, c'est art plastique, c'est plus de dessin. Voilà. Donc là, c'est la grosse difficulté, parce qu'ils ont parfois pas eu l'explication que ce qu'ils font, c'est pour construire quelque chose. Et peu importe que ce soit beau ou pas, et on n'est pas justement pour faire du beau.
Oui, non, c'est pas... J'aime pas. C'est
voilà. Pas donc, mais par contre, pour mettre en place des compétences et arriver à quelque chose et à se baser sur de la théorie et sur... Aujourd'hui, on parle beaucoup de la lecture de l'image. Mmh. On est entouré d'images. Et ben, il faut avoir des points théoriques pour les comprendre, ces images. Voilà.
Alors, si je pousse encore le bouchon un peu plus loin, et là, c'est quasiment provocateur, est-ce qu'on peut apprendre sans enseignant, sans personne pour vous apprendre les choses?
Je pense que oui.
Ça le mérite d'être clair et précis.
Non, je pense que ah ben y a... voilà. Non, mais tout
c'est
est possible.
C'est ça qui est intéressant,
en fait. Ça dépend des niveaux. Je
tout
pense,
est possible, oui. Oui, c'est ça. C'est... À la tout maternelle, je ne pense pas.
Même en élémentaire, je pense qu'il faut qu'il y ait un humain devant, je pense quand même. Et même. Alors, à votre niveau, chez les très grands, je pense que c'est possible. Mais je pense quand même que. Enfin, j'ose espérer, et j'espère et je pense. Et j'en suis intimement convaincue qu'on ne peut pas remplacer l'humain dans l'émotion. On parlait des émotions tout à l'heure. On transmet quand même des émotions, on transmet des savoirs, mais aussi des émotions devant un tableau, devant une œuvre d'art.
Je parlais pas de remplacement, moi.
Pardon.
Je parlais pas de remplacement.
Oui, non, bien sûr.
Non, j'entends bien. J'entends bien, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment...
Pour repréciser la question, c'est de savoir s'il y a un enseignant, c'est pas savoir si l'enseignant est remplacé par la machine.
Non.
C'est véritablement... Et là, effectivement, je pense que tu as raison, Hélène, mais même jusque très tard, il vaut mieux avoir un humain en face de soi plutôt que seulement une machine, même s'il faut se l'approprier aussi.
Mais effectivement, aujourd'hui, on est quand même obligé de composer avec les nouvelles technologies. Exactement. Parce que ça fait partie de nos vies. Dès très petit, malheureusement... malheureusement, c'est un lapsus. Mais dès très petit, on voit des enfants qui sont sur les nouvelles technologies beaucoup. Et
plus à l'écoute de son smartphone que de l'humain qui est en face, quoi.
Oui, et on a du. En fait, ils veulent nous zapper un peu, et on a du mal à leur expliquer qu'on ne peut pas être zappé.
Et alors. En art, on aura tendance à dire qu'on peut être autodidacte, et tant mieux, parce que tout être humain, déjà à la base, il a cette envie de créer. Après, c'est lui qui le développe ou pas, qui a parfois l'envie de montrer ou pas, parce que ça, c'est dur, ce rapport qu'on a. Moi, je dis toujours aux élèves, quand t'offrais tes gribouillis à papa et maman, qu'ils mettaient sur le frigo, t'as peut-être encore des petits frères et sœurs, ils trouvaient ça très beau. Et un jour, ils t'ont dit « tu dépasseras plus ». Ils t'ont acheté du coloriage. Et là, ça a tué la machine. Parce que on est tous en capacité de créer et d'être dans quelque chose d'autodidacte. Il y a même ce qu'on appelle l'art brut aussi. Enfin, mais par contre, les plus grands artistes, quand même, il y a une théorie. Alors parfois, c'est pas eux. Et puis, il y a ce mythe de l'artiste et du génie créatif. Il n'y a pas besoin de se couper l'oreille pour créer. Il n'y a pas besoin d'avoir pris des drogues. Et donc ça, c'est aussi quelque chose... Ça fait très bien de le dire, mais il y a de la théorie derrière. Les plus grands artistes, ils bossent énormément. Ils théorisent énormément. Ou alors, ils ont des gens qui les aident à théoriser. Et l'art, c'est quand même une grande économie de marché. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas aussi trop que baba cool, quoi.
Et si on reste d'ailleurs sur cette dimension, on va rétrécir de nouveau un peu le sujet... En s'intéressant à cette dimension artistique et aux arts plastiques, et non pas au dessin, et non plus au dessin. Aux arts plastiques, c'est. Et tu parlais de création, Anne. Justement, qu'est-ce que ça révèle, la créativité, chez des élèves, en l'occurrence, puisque tu es en lycée, sur leur manière d'apprendre ?
Alors, moi, ce que j'adore, c'est leur singularité. Pour moi, tout au long de leur parcours, on a tendance à leur donner des sujets. En terminale, je donne plus de sujets, c'est eux qui doivent construire leur sujet, leur problématique pour le bac. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que parfois, c'est des choses qui traitent d'un aspect un peu sociologique, mais parfois pas du tout. J'en ai qui vont travailler sur la question du cheveu. Et c'est ça qui est génial en art, et c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut prendre un crayon et se dire, voilà, toute ma création va être à partir de cet objet. Et cet objet, on va le regarder, mais comme les gens ne le regardent pas. C'est ça. Et c'est ça, je pense aussi, que les élèves arrivent à apprendre, c'est de regarder le monde autrement. Voilà. Et c'est ce qui peut-être nous manque un peu aujourd'hui. Et je pense que dans cet apprentissage, il y a leur singularité. Mmh. Et puis, une grande... Ils essayent de pas aller dans le pathos, parce que ça, j'ai tendance à leur dire, on n'est pas là pour régler des petites choses perso. Mmh. Mais voilà, ils mettent deux, en tout cas, et ils sont obligés de le montrer. Et ils le défendent à l'oral.
Alors, sans être une discipline à part, parce que les arts plastiques, c'est une discipline comme les autres. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment l'art est un vecteur spécifique d'apprentissage, mais pour conduire éventuellement à d'autres disciplines. Voilà, sans parler trop de moi, mais j'ai travaillé dans des écoles de management où on a mis au programme des cours de cinéma, des cours de dessin, alors qu'ils étaient là pour devenir créateurs d'entreprise ou manager et d'autres sujets.
Vous pouvez vendre de l'art, hein, tu sais.
Ouais, oui, non, mais indépendamment de la dimension économique et commerciale.
Bah, moi, déjà, je pense que l'expression créative, on est sûr la retrouver. La réflexion autour de l'imagination, ça, c'est des points importants que l'on perd parfois, et moi je dirais que je les récupère au collège, et c'est une période de transition. Donc, mais je les vois, je les ai en sixième, je les récupère en troisième. Je fais exprès de pas avoir cet entre-deux. Et ils ont perdu quelque chose qui était du naturel, et l'importance du regard de l'autre. Mais ce que moi je trouve important dans l'enseignement des arts plastiques, c'est la transversalité. Cette position. Là, j'ai de la chance de pouvoir travailler toutes les matières. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement admis.
Mais concrètement, ça veut dire quoi quand tu dis on peut travailler toutes les matières?
Moi, je vois quand on parle d'algorithme.
Oui.
Mmh. Voilà, on peut travailler l'algorithme, on peut travailler la perspective, et je vais faire des maths. J'adore faire mes cours de perspective. J'arrive avec mes règles comme un prof de maths. Ça me donne ce que je n'ai jamais eu, parce que j'étais vraiment très mauvaise en maths. Mais voilà. Et puis, c'est tourné vers tout. Enfin, tout un ensemble de choses qu'on retrouve dans notre société. Donc pour moi, il y a quelque chose de très concret et qui est assez facile à enseigner, parce qu'on peut se rattacher à des choses de notre société. Et en plus, on a la chance de pouvoir faire à la fois des bons dans le passé, et on se retrouve que c'était déjà la même chose. On corrigeait déjà les images à la peinture. Il n'y avait pas besoin de l'IA pour ça.
Exactement. Et un sujet un peu subjectif, c'est... Comment on évalue finalement un apprentissage créatif? Il y a du subjectif. Et comment faire admettre à un élève qu'il n'est pas tout à fait au centre de la cible?
Ouais, ça c'est délicat. Donc ça c'est toujours la question du beau. Alors je repars sur mes histoires avec la question du beau, parce qu'en fait on vient d'une société où le beau, dans la société occidentale, il nous a été imposé à la Renaissance. Il a fallu créer des esthétiques, et c'est ces esthétiques avec ces règles de l'art, comme on les appelle, qui imposaient les règles du beau. Et puis avec l'humanisme, on a commencé à ouvrir les musées, puis on nous a dit on va donner le goût du beau au peuple, hein, la lumière, encore cette idée du beau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré aussi dans la culture occidentale. Donc j'aime bien aussi leur dire que le beau, c'est pas le même beau partout déjà. Et on en revient aussi à parler d'eux, donc ça je le fais vraiment dès le départ, dès la sixième, je reviens là-dessus. Et puis je leur explique comment je note, ce que j'attends quand je donne un sujet. Alors bien sûr on attend des compétences, ça c'est et puis des objectifs qu'ils doivent avoir atteints à l'intérieur de ce sujet. Donc c'est assez concret, c'est pas du tout j'aime pas, ça je leur explique aussi, c'est pas la prof qui note selon ses goûts et ses couleurs. Et voilà, c'est vraiment la mise en place de compétences, et ils apprennent.
Puis un élément extrêmement important que tu viens d'évoquer, c'est cette notion d'interculturalité, finalement, de comprendre que tout ne passe pas par les mêmes paires de lunettes. Et ça, c'est déterminant.
C'est important, et c'est vrai qu'il y a aussi cet affect, parfois, qu'on a en temps. Souvent, je leur dis, alors là, c'est plus au lycée, où je suis vraiment toujours en train de leur dire, avoir un regard critique, et si je leur dis c'est bien, c'est beau, ils n'avanceront pas. Donc je suis toujours plutôt au lycée à leur dire tu peux peut-être essayer autrement, et puis ça les permet d'aller chercher, d'expérimenter autrement. Et voilà, ça c'est un peu mon rôle plus embêtant au lycée, mais qui sert à construire.
Mais exactement, c'est positif. Alors si on élargit de nouveau le focus ou la focale, c'est de se poser la question de l'apprentissage et du lien avec le monde professionnel. Donc on avance un peu dans ce cheminement. Et c'est de savoir d'abord comment on concilie la dimension académique, le savoir académique et les réalités de terrain. Comment la jonction se fait? Alors peut-être Christelle, dans un premier temps.
Comment la jonction se fait? Bah, se fait assez simplement, assez naturellement, parce que l'apprentissage, c'est le pas dans le concret. Donc, comme on le dit tout à l'heure, l'idée, c'est à la fois d'allier la partie théorique qui donne un cadre aux étudiants pour savoir où ils en sont, ce qu'ils doivent apprendre, et la partie apprentissage, donc terrain, qui là va leur donner du sens, en fait. C'est-à-dire que ce cadre-là, sans sens, il vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que, et on le voit souvent pour les jeunes qui ne sont pas en apprentissage, alors parce qu'on en côtoie, hein, on en prend en stage, ce qu'ils nous disent, la surprise qu'ils ont, ça peut être cette surprise-là, justement, de se dire, waouh, je comprends mieux pourquoi je vois ça en cours. Et quand ils ont souvent des stages, mais c'est vrai que l'apprentissage, c'est vraiment lien avec la réalité du terrain, où là, on a un sens direct de par rapport à ce qu'on apprend en cours.
Oui, cette notion de sens, c'est vraiment déterminant, c'est fondamental.
C'est
pourquoi on y va, quoi. Voilà.
C'est le but. Pourquoi on apprend ça? À quoi ça va nous servir? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus. On parlait du jeu tout à l'heure, mais s'il n'y a pas de sens, c'est quand même. Ça va devenir compliqué. On le voit après avec les collaborateurs en entreprise, où manager sans sens, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment une notion qui est importante dans le réel.
Donc, tu réponds à une autre question que j'allais te poser, mais on a déjà plus ou moins la réponse, c'est de savoir si le savoir académique est suffisant pour la vie professionnelle.
J'ai répondu. Il
est nécessaire, mais pas suffisant.
Disons que avec cette alliance entre la théorie et le terrain, on crée des collaborateurs, des futurs collaborateurs, des personnes employables. Donc il y a une dimension supplémentaire qui est attendue aujourd'hui sur le terrain, parce que les entreprises, elles ont quand même tendance à vouloir des gens relativement opérationnels. L'alliance des deux crée quelqu'un d'opérationnel.
Autre notion d'équilibre, c'est entre ces savoirs opérationnels et puis ce qu'on appelle maintenant très communément les soft skills.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi.
Je te permettrai de rebondir, évidemment, juste après Angélique, il n'y a pas de problème. Quelle part ça prend? Est-ce qu'on n'est pas aussi aujourd'hui dans une tendance où les soft skills, c'est très important, mais on ne fait que ça en mettant de côté les savoirs opérationnels, ou l'inverse? En tout cas, les équilibres ne sont pas tout à fait bien respectés.
Alors ça, c'est tout l'enjeu des écoles. L'enjeu des écoles, c'est parce que ce qu'on appelle soft skills aujourd'hui, c'est de moins en moins soft. C'est moins en moins des soft skills, c'est plus en plus hard, dans le sens où gérer un client qui est pas content, gérer un collaborateur qui veut pas faire ce qu'on lui demande alors qu'on est en formation management, gérer un patron qui parle pas forcément bien, enfin toutes ces choses là qui ont des enjeux fondamentaux, c'est pas du soft, hein. C'est des choses qu'il faut acquérir, et c'est pas 2 heures qu'on donne rapidement comme ça dans un programme.
C'est vraiment une compétence dure.
Voilà. Pour nous, c'est devenu une compétence dure. Et c'est en effet ce qui est attendu par les entreprises aujourd'hui. Qui, comme le disait Angélique tout à l'heure, les enjeux de la théorie, il y a encore des enjeux, mais c'est des enjeux qu'on peut acquérir. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, on peut apprendre aujourd'hui sans professeur, parce que tous les jours, on peut récupérer des notions, des données. Par contre, j'ai envie de dire, sans avoir un bon tuteur, sans avoir un mentor, sans avoir donc forcément quelqu'un dans l'enseignement, c'est beaucoup moins performant, clairement. Et donc les soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, pour nous, ça devient quasiment la priorité, en fait. Et aujourd'hui, l'entreprise, qu'elle recrute, quand elle regarde un CV, c'est fortement l'apparence, la façon de prendre la parole, la façon de garder la parole, de vendre son profil. Et les compétences, c'est... Enfin, en tout cas, le CV,
oui, c'est ça.
La théorie, elle arrive vraiment après, quoi. Même le diplôme, maintenant, il arrive après. Enfin, ça est de plus en plus vrai.
Plus on s'éloigne du diplôme, et moins il existe, en fait.
C'est encore un autre sujet.
Sur l'expérience. Et Angélique, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, alors pour revenir sur les soft skills, la formation la plus demandée par les salariés en entreprise depuis 4-5 ans, c'est tout simplement la gestion du temps, être capable de s'organiser, de se structurer dans son travail. Parce qu'effectivement, après, sur le reste, il y a des outils, des logiciels sur lesquels ils travaillent en général. En tout cas pour la partie dans laquelle moi j'intervenais, que ce soit dans l'industrie ou dans le service. Par contre, là où effectivement on va les attendre, c'est plutôt sur toute l'organisation. Et puis la deuxième partie, qui est énormément demandée aujourd'hui, c'est justement la gestion des émotions.
Parce que effectivement, alors ça, les collègues qui ont les personnes qui sont plus jeunes le constatent peut-être. On a de plus en plus de personnes qui ont énormément de mal par rapport aux générations d'avant à gérer leurs émotions au quotidien, par effectivement un manque d'habitude de se concentrer, de se disperser, la gestion de la frustration aussi, qui est quelque chose qui est complètement perdu.
Alors après, juste pour rebondir là-dessus, Angélique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de... Finalement, on ne parlait pas de ces émotions il y a peut-être plusieurs années, on gardait ça pour soi, alors qu'aujourd'hui, on les exprime plus dans cette dimension où ça ne va pas. Donc on le dit, alors qu'il y a une certaine époque, peut-être, on n'osait pas le dire. Et on essayait de gérer ça tout seul.
Alors aujourd'hui, on peut le dire, mais l'entreprise attend une manière de le dire. Donc d'accord. Le travail qui va être fait en formation, c'est surtout d'apprendre aux salariés qui peuvent exprimer leurs émotions, bien évidemment, mais qu'il y a une manière de le dire, parce qu'aujourd'hui, ça peut prendre des proportions qui sont assez impressionnantes.
Et des facteurs de déstabilisation
d'une
équipe.
C'est des facteurs. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient d'excellents profils de manager, mais qui, malheureusement, n'ont pas pu, transformer l'essai, parce que, par tout simplement des pétages de plomb, hein, je le dis tel que ça se passe.
C'est clair, au moins.
Et du coup, effectivement, y a eu un arrêt sur les envies qu'ils pouvaient avoir dans leur travail, en fait.
Merci, Angélique. Christelle, je reviens vers toi, toujours sur cette troisième étape des écoles après le bac. Sur un autre sujet qui complète la gamme d'outils de formation. On a parlé donc des compétences dures, des soft skills qui font partie du programme. Et puis ensuite, il y a la notion de ce qui est hors programme, c'est-à-dire les projets en association, toute la vie étudiante. Qui constitue cette expérience globale que suit un étudiant dans une grande école. Comment ça s'articule entre ces expériences donc en dehors des cours et les cours ?
Pas très bien. En alternance, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, c'est
voilà, alors effectivement l'alternance, oui, c'est dur.
Ouais, en alternance, moi en ce qui me concerne, ce qu'on me dit souvent, c'est comment la vie étudiante, c'est comment le BDE, c'est comment en fait, pour avoir un BDE, il faut avoir une association, faut avoir des membres de l'association, faut avoir des jeunes qui suivent parce qu'ils ont beaucoup d'envie et puis assez peu de temps en fait de disponible. On est d'accord que la tolérance à la contrainte, elle est quand même de plus en plus limité. Donc j'ai envie de dire que ça devient de plus en plus une charge pour l'école, en tout cas. C'est-à-dire que l'école doit apporter du plus, du loisir, de la vie.
Mais parce que ce sont aussi des vecteurs de compétences, au-delà de ce qu'on apprend en cours.
Oui, mais c'est vrai que objectivement, on a du mal à les mobiliser sur des projets, parce que l'alternance prend beaucoup de temps.
Sur l'alternance.
Ouais. C'est pas le meilleur profil en fait pour parler de cet équilibre-là, parce que c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont en entreprise, qui ont l'école, qui ont les examens.
Faudrait qu'ils viennent la nuit, quoi.
Donc c'est plus, mais on fait des choses, hein. On fait des choses, notamment Noël du cœur. Enfin, tous les ans, on organise on fait des concours de pitch. On fait pas mal de choses pour eux, mais c'est vrai qu'on peut pas les sursolliciter et ça doit être fait par l'école.
Et l'addition de tous ces éléments qu'on vient d'évoquer, une école, finalement, si on la définit, ça doit former ou transformer un étudiant ?
Alors, ça doit transformer. Enfin, ça transforme, de toute façon. Alors, ça doit, parce que moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est mon métier. Former, c'est former une personne. Elle acquiert des compétences, mais elle reste la même. Transformer, c'est... comment, on parlait tout à l'heure des soft skills, comment je vais me regarder différemment, comment je vais appréhender ce que je dis différemment, comment je vais transformer mon point de vue sur les choses. Donc, on appelle ça un esprit critique. Comment cet esprit critique-là va pouvoir se mettre en place? Et ça, c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc oui, il faut transformer. Et moi, j'ai des transformations tous les jours. J'ai des étudiants qui rentrent en BTS, qui sortent en Bac plus 5. C'est ce qui fait que ce métier est extrêmement, extrêmement plaisant. C'est qu'on a des pépites.
Des satisfactions fabuleuses.
Des pépites ou...
Des parcours hyper
d'éclore, en fait. C'est cette éclosion qui est vraiment un vrai bonheur.
Merci Christelle. Si on avance tout doucement dans ce parcours, dans ce chemin, on arrive à la quatrième étape, celle où on apprend à l'âge adulte, après qu'on ait fini ses études, commencer sa carrière. Ma première question est toute simple, Angélique, c'est comment on apprend à l'âge adulte? Est-ce qu'on apprend différemment? Est-ce que c'est une approche différente?
Ce que je disais tout à l'heure, à l'âge adulte, on a déjà le fameux sac à dos, on a emmagasiné un certain nombre de choses, on a beaucoup de croyances limitantes, donc forcément on n'arrive pas sur un terrain vierge. Donc d'où une pédagogie individualisée qui va s'adapter encore plus à chaque adulte qui a sa propre histoire, en fait. Donc on apprend vraiment en étant encore plus centré, comme le disait la collègue avec les tout-petits de 3 ans qui développent leur personnalité. En fait, l'adulte, c'est pareil. Il a développé sa personnalité. Donc il va falloir ancrer les apprentissages par rapport à la personne qu'il est et faire en fonction de cette personne.
Donc on est vraiment dans l'individualisation des programmes, des contenus et des interactions.
Même si on a un groupe, on est dans l'individualisation. Parce que même sur une formation... pour revenir à la bureautique, par exemple, sur une formation Excel, je disais souvent aux formateurs, même si vous avez un groupe de 6, vous ne pourrez pas faire le même programme pour les 6, même si on a un contenu qui a été défini. Chaque adulte étant différent, il va avancer à son rythme, et à la fin des 2 jours, forcément que chaque adulte n'aura pas forcément appris et ancré les mêmes apprentissages.
Et comme je le disais en introduction, tu es formatrice et coach. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire sur cette individualisation, finalement, la frontière est assez ténue entre, ou en tout cas, où elle se situe entre la formation et le coaching.
Alors, la formation, c'est l'apprentissage d'une méthode. Si je prends par exemple, tout à l'heure, Christelle parlait de la prise de parole en public, par exemple, ou la conduite de réunion. Donc, si on fait une formation, on va donner une méthode pour apprendre à préparer sa réunion, l'animer, la conduire. Ça va être une méthode. Le coach, lui, il va s'intéresser à qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acquis la méthode d'animer une réunion, peut-être que tu n'en fais jamais des réunions. Pourquoi ? Parce que tu as peur. Tu as peur du regard de l'autre, parce que tu ne sais pas comment t'y prendre, parce que tu as peur des conflits. Donc, en fait, même si tu as super bien compris la méthode de la conduite de réunion, tu ne vas pas réussir à la mettre en... Et le coach, il va servir à ça.
D'accord. Donc, c'est un binôme finalement presque indispensable pour ceux qui rencontrent des difficultés dans la mise en application de ce qu'on apprend en formation.
La première étape, c'est d'être formé, parce que selon son parcours scolaire, on n'a pas tous eu une formation sur, par exemple, la conduite de réunion. Donc la première étape, c'est d'être formé. Mais une fois qu'on est formé, ce n'est pas pour ça qu'on va y arriver. Et c'est là que, effectivement, le coaching prend toute sa dimension. Et c'est pour ça qu'il est arrivé très tôt aussi dans les pays anglo-saxons, qui ont compris il y a très très longtemps la puissance du coaching.
Et donc, par rapport à tout ça, comment tu définis une bonne formation pour adultes? C'est quoi? La bonne combinaison?
Alors, en formation pour adultes, on dit toujours, de toute façon, c'est la personne qui est formée qui va décider de se former. C'est pas le formateur ou pas le coach. C'est vraiment la personne qui est acteur de son apprentissage. Donc la personne qui va réussir, c'est la personne qui elle-même va être en capacité à la fin, et c'est ce qu'on fait nous dans nos évaluations, de définir qu'est-ce qu'elle a retenu de cette formation et qu'est-ce qu'elle va être capable de mettre en place, et pourquoi pas d'être capable aussi de dire, par contre ça, j'y suis pas encore, mais j'ai d'autres étapes ensuite à continuer...
À poursuivre.
Dans l'apprentissage et à poursuivre. Mais c'est vraiment elle qui va être acteur de son histoire.
Et dans ce processus d'apprentissage, d'apprendre quand on est adulte, c'est-à-dire une fois qu'on a passé toutes les étapes qu'on vient d'évoquer tous ensemble, on a, comme dans la pratique de certains sports qu'on a appris tout seul, on a des gestes parasites. Est-ce que apprendre à l'âge adulte, c'est aussi désapprendre un certain nombre de choses ?
Oui, c'est le phénomène d'ancrage ou de désancrage. C'est-à-dire, effectivement, on peut avoir... après, il y a une forte envie, comme disait Christelle. C'est là où l'envie va faire toute la différence et le sens qu'on va donner. Et si la personne, elle estime que ça a vraiment du sens et qu'elle en a vraiment envie, elle va pouvoir effectivement passer les étapes de différents freins qui font que il va falloir qu'elle fasse autrement, en fait. Mais là encore, c'est vraiment elle qui va le décider. Les formateurs ou les coachs, ils sont là que pour accompagner. Mais c'est vraiment la personne qui va décider.
Merci Angélique. On arrive tout doucement à la fin de ce chemin, de ce parcours. J'aurais peut-être une dernière question à vous poser à toutes les quatre, mesdames. C'est celle de savoir, ou en tout cas, quel savoir vous semble aujourd'hui indispensable, essentiel à transmettre aux générations futures. Vous avez 2 heures.
Alors, moi, je pense qu'il faut qu'ils sachent justement apprendre à apprendre. Et comme disait, alors je ne sais plus lequel des collègues, apprendre à se structurer. Parce qu'il y a énormément d'informations. On va très, très vite à l'information. Mais par contre, il faut trier. Il faut se structurer. Et il faut continuellement apprendre à apprendre, à s'adapter. La conduite du changement, parce que ça va très, très, très vite. Donc, en fait, c'est vraiment actionner sur le levier de cette capacité à tout le temps, comme tu l'as dit au tout départ de ton intervention, c'est vraiment le mouvement. Et le mouvement, il est de plus en plus rapide.
Rapide, bien sûr. Christelle ?
Oui, moi, pour corriger régulièrement des dossiers, donc je peux en parler, j'aimerais bien qu'ils développent un petit peu plus leur curiosité. C'est-à-dire qu'ils creusent un petit peu.
C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'acquis et de l'inné.
Ouais.
Voilà, la curiosité, c'est théoriquement, c'est inné. On est curieux, mais après, c'est de l'apprendre,
comme,
à devenir.
Comme les outils sont de plus en plus facilitants, on oublie un petit peu d'être un esprit critique. C'est vraiment des choses qui s'oublient parce qu'on va à la rapidité, la facilité, et c'est vrai que ça se sent, et c'est, je trouve, depuis 2 ans, c'est de plus en plus visible et de plus en plus j'ai presque envie de dire néfaste, cet aspect-là.
Oui,
non,
bien sûr.
Cet
aspect-là. Évidemment. Anne ?
Oui, ben moi je dirais avoir un esprit critique, mais je dirais aussi leur apprendre aussi à s'ennuyer, parce qu'en fait quand on s'ennuie, on n'a qu'une envie, c'est de prendre un bouquin, lire, pas prendre un téléphone, mais voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose qui joue en notre défaveur, ce manque d'ennui. En fait ils ont beaucoup de temps pour aller faire des BDE, organiser plein de choses, mais ils en passent tellement là-dessus, faussement se cultiver, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils perdent du temps. Et c'est vrai que ce manque de temps, qui était ce temps un peu latent, on ne savait pas trop quoi faire, mais on trouvait bien un petit truc, on allait le bricoler, ça je trouve que ça manque. Et puis, oui, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à avoir un esprit critique, mais pour le développer positivement, enfin voilà, avoir un regard sur le monde.
C'est tout le but.
Parce qu'on est quand même dans un monde complexe et très vite interconnecté, donc il va falloir qu'ils apprennent à avoir ce regard critique et qu'ils sachent le mettre en avant. En tout cas.
Hélène ?
L'esprit critique et puis aussi l'envie de, enfin la contrainte du travail, parce que quand même c'est quand même aussi c'est quand même
c'est déterminant
et savoir que
et de faire en sorte que ce soit de moins une contrainte, en fait
c'est ça, en fait accepter les contraintes en général, parce qu'il y a quand même nous on le voit dès tout petit, et je pense que on est tous à peu près unanimes pour dire que les enfants aujourd'hui sont de plus en plus réfractaires à la contrainte, à la frustration.
Oui, parce que tout est facile d'accès finalement.
Et malgré tout, le travail, mais la satisfaction qu'on a aussi quand on mène un travail à son terme et qu'on réussit et réussir à connaître cette satisfaction et à aller
et
au bout
l'apprécier.
Et au bout d'une tâche pour pouvoir l'apprécier, je pense que c'est voilà, et ça passe par effectivement quelques répétitions et quelques contraintes qui peuvent être
donc la formation.
Voilà, la formation.
Merci beaucoup mesdames, je souhaite qu'on les applaudisse vraiment chaleureusement.
Merci.
Alors, c'est pas tout à fait terminé. Je ne vous libère pas tout de suite parce qu'on a un petit temps d'échange, d'interaction avec le public. Donc, si vous avez 1, 2, 3 questions, on a encore un petit peu de temps. Alors, la seule contrainte, on parlait de contrainte, c'est celle de vous lever et de venir attraper le micro parce qu'il faut qu'on vous entende au-delà des murs du Hilton. Alors, qui a une première question ? Alors, ils ont presque tout dit. Tout est très clair, mais... Vous avez peut-être une question qui vous taraude. Oui, je vous en prie, madame. Présentez-vous.
Bonjour. Moi, je suis Virginie Briand, je travaille dans l'enseignement supérieur. Merci à vous, parce qu'au travers de vous, il y avait justement tout le processus de l'apprentissage de l'âge tendre jusqu'à l'âge adulte, ce qui était très intéressant. Justement, on parle de la frustration, de la difficulté à supporter la frustration, la contrainte. Est-ce que, justement, dans votre parcours, vous avez trouvé des solutions pour lutter contre ça?
Qui veut répondre?
Des solutions. Alors, pour nous ou pour les autres? En fait, moi, je trouve que, alors, il y a une problématique sur la contrainte, mais il y a une chose que je dis souvent, moi, aux tuteurs. Parce que souvent, alors, moi, j'ai pas mal de tuteurs, et j'en fais partie, je suis une tutrice aussi, mais qui se plaignent des nouvelles générations, des jeunes, donc on entend plein de choses. Et en effet, c'est pas forcément facile d'avoir de la contrainte. Par contre, nos jeunes, ils adorent le challenge. Ils adorent être challengés, ils adorent avoir qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne de l'autonomie. Donc, j'ai envie de dire, allons peut-être plus facilement sur leurs besoins à eux, ce qui les anime, et peut-être que ce qui peut paraître au démarrage comme une contrainte sera peut-être requalifié comme challengeant. Et c'est peut-être à nous aussi, là je parle en tant que manager et puis de directrice, formatrice, enfin toutes les casquettes que je peux avoir, c'est peut-être à moi de réfléchir à comment je peux amener les choses différemment pour le rendre un peu plus entendable pour nos jeunes générations qu'ont autant d'énergie qu'on en avait, hein, sauf que ça, c'est plus les mêmes priorités, pour autant ils sont pas mauvais.
Non, bien sûr, évidemment.
Donc moi, je me dis, une des clés, c'est peut-être de réfléchir à rentrer dans leur territoire et de challenger leur intelligence, parce que moi, je les trouve quand même assez débrouillards.
Oui, bien sûr.
Pour bien les connaître.
Oui, on trouve des solutions sur certains sujets très facilement. Hélène ?
Pour parler des plus petits, ils sont effectivement... Tu disais qu'ils étaient plus débrouillards. C'est vrai que c'est quand on voit aujourd'hui les petits de maternelle aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, effectivement, ils sont très, 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 très éveillés. Ils connaissent plein de choses. Effectivement, je pense que... Non, faut pas non plus... les jeunes générations qui arrivent, ils ont plein de compétences. Et effectivement, très... Mais ils sont effectivement dans ce challenge. Même les petits, ils sont vraiment ils ont l'esprit de compète. Ils sont vraiment là-dedans. Donc c'est vrai que c'est sûrement un levier pour les aider à passer ces contraintes.
Autre question dans le public.
Alors, je reviens sur la frustration. On parlait d'esprit de compète, on parlait de challenge. Effectivement, on peut les faire travailler sur le fait que, et les sportifs de haut niveau l'expliquent très bien, que même avec un esprit de compète et un challenge, en fait, il y a un cadre. La notion de cadre à mettre en place au départ, elle est hyper importante. La notion de quelles sont les règles du jeu. Et en fait, de les faire eux-mêmes travailler sur le cadre et les règles du jeu qui fera que le challenge, ils vont le gagner et que ça va marcher, en fait.
Oui, bien sûr. C'est à l'intérieur d'un cadre qu'on se sent libéré, finalement, et qu'on peut avancer efficacement.
Oui, juste une petite dernière. Il y a aussi la notion d'exemplarité qui est très, très frontale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un manager... Il va être manager parce qu'il est exemplaire, parce que le jeune en face le respecte et se dit waouh, un mentor, il faut être des mentors aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est quand même à nous de leur montrer que nous aussi on a des contraintes, que nous on les dépasse, que nous oui des fois on râle aussi, mais qu'on y va et leur donner un sens par rapport à ça. Et je pense que on disait tout à l'heure l'exemplarité, on parlait d'avoir des modèles, et je pense que cette exemplarité, sans dire qu'on est exemplaire, sans dire qu'on est parfait, on parle de nos contraintes, on les assume et on les dépasse et on leur explique pourquoi.
Et ça donne des repères.
Voilà, et c'est d'avoir ce cadre-là bien, bien structuré, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir des bons exemples en face de eux.
Anne ?
Oui, donner du sens. Donner du sens à ce qu'on fait. Alors, on parlait de la pratique et de la théorie. Ça, c'est quelque chose parfois qu'on a complètement oublié, surtout en France, où on théorise, on écrit, mais on oublie de parler à l'oral. Ça, c'est plus anglo-saxon, donc ça, c'est bien. Et donner du sens, c'est-à-dire, c'est pas la note. Moi, je sais qu'il faut que j'en mette. Voilà. Mais le but, c'est est-ce qu'à la fin, t'as réussi ou est-ce que t'as pas réussi? Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que t'as pas compris? Ça, ça m'intéresse. Et ça, c'est ce que l'enfant doit comprendre.
Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu vas garder?
Voilà, c'est ça. Alors bon, c'est un travail qui est assez difficile parce que c'est un travail d'équipe. Hein. Tu parlais avec les parents. Bah oui, si on a des parents qui aussi aident à cette compréhension. Mais c'est pas évident parce que c'est un peu paradoxal par rapport à des demandes sociétales sur, bah voilà, il y a un parcours sup, il y a des évaluations. Voilà. Mais en tout cas, quand ils ont compris qu'il y avait du sens, et je pense que les jeunes, en effet, ils sont très forts. Et sur les nouvelles technologies, en plus, ils les utilisent très très bien. Mais parfois, sans leur donner du sens, et on en revient à ça. Et puis, ils aiment bien les cadres et ils aiment bien l'exigence. Parce que souvent, quand un prof est un peu exigeant, mais. Enfin, moi, je dis toujours que, ouais, voilà, la justesse,
avec
mais
la manière, quoi. Il faut avoir la manière, mais.
Ouais, ça, voilà, l'exigence, ça enlève pas la bienveillance, et c'est sûrement plus bienveillant d'être exigeant et d'attendre clairement d'eux quelque chose et de les avoir construits. À la fin, ils nous remercient pas toujours, mais parfois, ouais.
Oui. Ou plus tard.
Plus tard.
D'autres questions? Eh bien, écoutez, je retiendrai justement ce dernier terme, donner du sens. Et je sais que vous avez donné du sens à cette émission. Et je vous en remercie infiniment. On vous applaudit encore très fort.
Merci à vous.
Merci, mesdames.
Merci.
Je vous souhaite une bonne soirée. Vous étiez sur Radio Girafe Normandie. On se retrouve d'ici un mois sur le thème, ici au Live Hilton, de l'entrepreneuriat. Merci à vous. Bonne soirée.